La rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur la prière de Jésus ou la prière à Jésus. Vous vous souvenez peut-être des récits du pèlerin russe à la télévision, cette série d'émissions qui a été diffusée il y a bien une quinzaine d'années, il me semble, et qui était réalisée par Roger Leclerc à la télévision donc de Radio-Canada. C'était extrêmement populaire. C'est cette prière très simple, très très simple, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et c'était très en faveur dès le siècle dernier en Russie, au point que ce pèlerin russe, dont il est question dans un livre, récit au pluriel d'un pèlerin russe, paru dans la collection Sagesse, très bonne collection, hein, aux éditions du Seuil. C'est le numéro 14 de la collection. C'est à lire ce récit, c'est l'aventure d'un homme qui apprend à prier. Et nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire, que cette prière répétée presque à l'infini. Mais pourquoi répéter comme ça à l'infini? C'est un peu ce que nous faisons avec nos chapelets qui deviennent des rosaires, 3 chapelets de suite. Le récit du pèlerin russe, ou les récits du pèlerin russe, comme je vous ai dit, ça ne date que du 19e siècle, mais ça prend ses sources dans ce qu'on appelle la philokalie. Oh là là là, la philokalie, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien, la philokalie, c'est un autre livre qui rassemble les déclarations de toutes sortes de gens dès le 8e, 10e siècle, comme Ézéchius, le Sinaïte, etc., etc., sur, justement, la façon de prier. Et puis, c'est dans ces textes que l'on peut retrouver, en particulier, un texte de Saint-Siméon, le nouveau théologien. Saint-Siméon, le nouveau théologien, je vais vous en parler après-demain. C'est un très grand moine byzantin, mystique byzantin, qui est mort en 1022. Vous me direz, pourquoi parler d'un homme qui est mort il y a 1000 ans, qui était même pas catholique? Mais oui, il était catholique dans ce temps-là, nous n'étions pas séparés, puis de toute façon, nos frères orthodoxes sont nos frères les plus intimes, les plus près. Et cette émission, aujourd'hui, est un peu dédiée à Nikolaï Diouskine, qui est malade, qui ne m'aide pas. Aujourd'hui, pour la diffusion, la mise en onde de cette émission, il est remplacé. Et alors, quand le pèlerin russe se promène, on raconte que par la grâce de Dieu, écrit-il, je suis homme et chrétien, par action grand pécheur, par état pèlerin sans abri, de la plus basse condition, toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir, pour ce que je possède, là, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec. Puis dans ma blouse, la Sainte Bible, c'est tout. Le 24e dimanche après la Trinité, j'entrais à l'église pour y prier pendant l'office et on lisait l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Et au passage dans lequel il est dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, est-ce possible? Cette parole a pénétré profondément, dit le pèlerin russe, dans mon esprit. Puis je me suis demandé comment il est possible de prier sans cesse? Sans cesse? Alors que chacun doit s'occuper de nombreux travaux pour subvenir à sa propre vie? Que faire? Que faire, me suis-je dit? Où trouver quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer ses paroles? Alors j'irai par les églises où prêchent des hommes qui sont renommés. Et là, peut-être que je vais trouver ce que je cherche. Et je me suis mis en route. J'ai entendu beaucoup d'excellents sermons sur la prière. Mais le problème, c'est que personne ne lui explique comment prier sans cesse. Jusqu'à ce que dans un couvent, un moine, justement, ce fameux Saint-Siméon, le nouveau théologien, ouvre la philokalie, dont je viens de vous parler, ce livre, qui est paru aussi dans la collection Sagesse, c'est le numéro 20, celui-là. La petite philokalie de la prière du cœur. Or, c'est beau. Tous ces textes des différents orthodoxes-là. Alors, je choisis un passage de Saint-Siméon, le nouveau théologien, dont je vous rappelle que je vous parlerai après-demain. Il commence. Écoutez bien, ça, c'est pas long, c'est 6 lignes. C'est le secret. demeure assis dans le silence et dans la solitude. Incline la tête, ferme les yeux. Respire plus doucement. Regarde par l'imagination à l'intérieur de ton cœur. Rassemble ton intelligence, c'est-à-dire ta pensée, de ta tête dans ton cœur. Dis sur la respiration, vous savez, c'est la grande mode aujourd'hui de prier en respirant. On enseigne ça, ça peut coûter 700 $ pour une fin de semaine, vous savez. Ne vous laissez pas prendre par toutes ces choses invraisemblables. Il y en a une question hier un peu à la télévision. Donc, dis sur la respiration, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. À voix basse ou simplement en esprit, efforce-toi de chasser toute pensée, sois patient et répète souvent cet exercice. On retrouve un peu ça, vous savez, je vous en ai déjà parlé du nuage de l'inconnaissance, cet ouvrage anonyme du 14e siècle, ça vient d'Angleterre, ça, qui préconise aussi la prière courte et fréquente. Mais je vous ai aussi parlé de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac, vécu, si je me souviens bien, au 7e siècle, et qui dit, voici les signes caractéristiques, c'était la page 280, ça, de l'Échelle Sainte, son ouvrage, qui lui a donné le nom de Climac. Jean Climac, c'est ça que ça veut dire, Jean de l'Échelle, au fond. Voici les signes caractéristiques, les exercices puis les marques de ceux qui pratiquent l'Ézéchia. Ézéchia, ça veut dire la sérénité, la paix. L'Ézéchia d'une manière raisonnable. Alors un esprit toujours éveillé, une pensée pure. Le ravissement dans le Seigneur. Le souvenir des tourments éternels, ça, on n'en parle plus aujourd'hui. On ne pense plus à ça, les tourments éternels. Personne ne parle de ça. Alors lui, il en parle, Saint Jean Climac. Le souvenir des tourments éternels. Le désir pressant de la mort. La faim insatiable de la prière. Hein? La faim, F-A-I-M. Comme il en était question ce matin à 8 h, à le premier jour de la retraite à Saint-Joseph. C'était très beau cette retraite ce matin. La faim insatiable de la prière. Une vigilance sans défaillance. L'extinction de la luxure. En d'autres termes, plus d'appétit sexuel désordonné. Là. L'extinction de la luxure. L'ignorance des penchants passionnés. La mort au monde. Mourir au monde, le monde dont parle Saint Jean, évidemment. Ce monde ennuyant comme la pluie, là. Pas le monde, les gens qu'on doit aimer, tout le monde. C'est pas ça que ça veut dire, la mort au monde. La perte de la gourmandise. L'aptitude à la théologie, c'est-à-dire l'aptitude à la réflexion sur Dieu et sur les choses de Dieu. Un puits de discernement. Ah, oh, mon Dieu, que c'est donc important, ça, d'avoir un puits dans lequel on peut aller chercher de l'eau fraîche pour pouvoir discerner ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, qui on doit rencontrer, comment lui parler, comment l'écouter, etc. Le don des larmes. C'est donné à certaines personnes, paraît-il, le don des larmes. Pleurer, ce qui donne une sérénité, finalement. Le retranchement du bavardage. D'importance, ça. Et beaucoup d'autres choses semblables auxquelles le commun des hommes préfère rester complètement étranger. C'est écrit, comme vous voyez, il y a près de 1500 ans par Saint Jean Climac dans l'Échelle Sainte. C'est publié, ça, si je me souviens bien, par les... dans la collection Spiritualité orientale. C'est publié par l'abbaye de Bellefontaine, une abbaye que fondée au cas. Quand on ouvre un beau bouquin comme Les grands mystiques russes de Thomas Spidlik, paru il y a bien plusieurs années, il n'y a pas si longtemps, 1979, aux éditions Nouvelle Cité. On cite un texte du fameux Théophane le Reclus. Je vous prépare une émission sur ce grand orthodoxe qui dit « Invoque le Seigneur avec ardeur. Répète, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Fais-le sans cesse, à l'église, chez toi, en chemin. » Voyez-vous, en chemin, sans cesse. Hein? C'est la réponse qu'attendait tout à l'heure le pèlerin russe. Là. « Sans cesse. » Durant le travail et pendant ton repas, dans ton lit, en un mot, du moment où tu ouvriras les yeux jusqu'à celui où tu les fermeras, c'est comme si tu exposais quelque chose au soleil. parce que c'est se tenir devant le visage du Seigneur, Jésus, qui est le soleil du monde spirituel. C'est bien dit, hein? Quand on prie comme ça, on est toujours debout, debout intérieurement, devant le visage du Seigneur, qui est le soleil du monde spirituel. Alors, en donnant ce conseil, Théophane le Reclus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien d'autre que de répéter l'enseignement de sortes d'auteurs qui sont cités dans la Philokalie, comme Saint-Siméon, le nouveau théologien, sur ce qu'on appelle en russe la Molitva Issusova, c'est-à-dire la prière de Jésus. C'est pas vraiment la prière de Jésus, ce serait plutôt la prière à Jésus. Hein? Enfin, appelons-la la prière de Jésus, parce qu'elle s'appelle comme ça. On dit même, je vous dis ça pour vous faire rire, mais c'est doux quand même. On ne peut que sourire de sourire doux. On dit que cette invocation serait très ancienne, et selon une opinion pieuse, elle aurait été pratiquée par la Sainte Vierge elle-même. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais elle se considérait peut-être comme une pécheresse, elle qui était immaculée. Puisque la prière se termine comme ça, n'est-ce pas? Aie pitié de moi, pécheur. On trouve déjà trace au milieu du 5e siècle de cette prière. Il est certain que l'invocation, telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui est fixée dans une formule bien précise et qui est accompagnée d'une certaine technique psychophysiologique, là, a été grandement enseignée, puis on a dit aux gens de l'utiliser par les moines du Mont Athos qui le pratiquaient à partir du 14e siècle, puis dans la suite. Hein. On distingue d'ailleurs un double mouvement là-dedans. Hein. Il y a un élan mystique vers Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il y a aussi un retour sur soi dans la seconde partie. Aie pitié de moi, pécheur. Ça fait comme un rythme. Hein. À ce double mouvement, on peut associer le rythme de la respiration. On aspire en disant « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu », puis on expire en disant « Aie pitié de moi, pécheur ». Il faut donc prier lentement, en réfléchissant, autant que possible, aux paroles. Et ça chasse les pensées, les distractions. Faites ça devant le Saint-Sacrement quand vous avez de la misère comme moi. Pas si vous êtes comme moi, moi j'ai donc de la misère devant Saint-Sacrement. Je suis toujours distrait, je pense à toutes sortes de choses. C'est terrible, terrible, je me déteste. Et c'est ce qui est important, c'est d'insérer au fond la prière dans tout le contexte de la charité. Il faut pas attendre que la paix intérieure, c'est ça que ça veut dire, les ichasmes, comme on appelle ça, toute cette doctrine. Il faut pas attendre que la paix intérieure se présente comme ça sans pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres à l'égard des gens qui ont de la misère autour de nous. Alors, de l'Athos, du mont Athos, la prière de Jésus a pénétré dans l'Orient slave. Puis la grande popularité de cette prière en Russie remonte à la fin du 18e siècle. C'est à ce moment-là que deux grands spirituels ont publié ensemble à Venise, en 1782, la Philokalie des Saints Vigilants, dont je vous ai parlé. Puis la Philokalie, là, c'est la grande anthologie des textes des pères et des auteurs byzantins, comme on les appelle, ou si vous voulez, de l'Église orthodoxe, de la tradition orthodoxe, sur la prière. Avec un respect particulier pour la prière hésychaste, la prière dont je vous ai récité plusieurs fois les quelques paroles. Hein. La prière a été pratiquée et recommandée aussi par Saint Séraphim de Zaroff. Vous vous souvenez peut-être de Saint Séraphim de Zaroff, dont je vous ai parlé le 2 janvier 1997, il y a donc 2 ans. Quel saint admirable! Il la loue, ce saint-là, dans des fragments de ses écrits, comme un moyen adapté à stimuler la bonne volonté, à chercher la lumière qui vient de Dieu. Et il a bien raison. Je vous parlais de Saint Séraphim de Zaroff. Eh bien, sa biographie la plus ancienne contient un supplément là, de 75 pages avec des considérations très, très, très intéressantes sur le retour de l'esprit dans le cœur, qui est à la base de cette prière, sur la chaleur qu'on ressent. Oui, la chaleur qu'on ressent, et sur l'ultime simplification aussi de l'invocation, comment la simplifier, simplement par 2 mots. Mon Jésus. Au lieu de dire les quelques paroles, là, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. On dit simplement mon Jésus. J'ai vu ça un jour chez les Carmes à Avon. C'est près du château de Fontainebleau, ça. Je faisais une retraite, j'étais seul avec les Carmes. Une dame est entrée dans la chapelle. Et je me suis retiré. Quand je suis revenu, au bout d'à peu près 20 minutes, je voulais la laisser seule. On est bien seul dans une chapelle. Elle était encore là. Puis elle répétait, doucement, Jésus, Marie, mon amour. Jésus, Marie, mon amour. C'était la même chose. Il paraît-il, je me suis demandé au Carme, qu'elle venait tous les jours depuis des années, priant comme ça. Alors, il y a une édition remarquable de la Philokalie, là, de tous les textes dont je vous ai parlé, qui a été publié par un évêque, qui s'appelait Ignace Brianchaninov, qui est mort en 1867. Il a publié ça à Saint-Pétersbourg, en 1857, 10 ans avant sa mort. C'est un disciple fidèle des pères grecs, cet évêque Ignace. Puis il dit expressément ceci, c'est très important, que la perfection consiste en la divinisation de notre nature humaine. Pour en arriver à dire, comme saint Paul, c'est moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein? Il donne, cet évêque, en même temps, une grande importance aux sentiments du cœur. C'est très important, les sentiments du cœur. C'est pas du sentimentalisme. Nous sommes faits de sentiments puis de raisons, hein? Il y a des gens qui veulent être très, 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 très raisonnables et finalement, il n'y a plus de cœur ni dans leur prédication, ni dans leur prière, ni dans leurs attitudes, rien. L'Esprit Saint, dit Ignace, réside dans la partie supérieure du cœur où se manifestent les mouvements secrets puis les sentiments spirituels. Alors, il ne peut donc exister de véritable prière, selon lui, sinon celle du cœur, où se réunissent toutes nos facultés à l'image de Dieu. Dieu est tout amour. Dieu est tout cœur. Mais n'y a-t-il pas de danger d'illusion si l'on se fie aux sentiments, hein? Il pose la question, cet évêque Ignace. Mais il répond d'une façon digne d'un ascète. Il dit, l'illusion est toujours le produit de l'orgueil. L'unique moyen sûr d'éviter les faux sentiments est donc de se munir d'une humilité sincère et de dire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Oui, aie pitié de moi, pécheur. Or, la plus complète et monumentale édition de la Philokalie, là, elle nous vient de Théophane le Reclus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je prépare une émission, je vous le dis. Lui aussi défend la prière de Jésus, même s'il parle peu de la méthode physique, mais il est d'accord pour dire que certains efforts corporels, il y a des gens qui aiment ça, puis moi j'aime bien ça, faire un effort corporel, ça favorise l'oraison spirituelle. Donc, fixer l'attention sur le cœur. Tenir les muscles tendus, mais pas trop, puis ne pas se laisser séduire par les impressions sensibles. L'obscurité est utile, une certaine obscurité, tamiser la lumière complètement, pour se libérer des impressions, mais c'est pas indispensable. Hein? Il peut être utile de se mettre, d'après Théophane le Reclus, de se mettre sur une chaise basse, de retenir sa respiration, de soulever les épaules et la poitrine pour tenir le cœur en alerte. Mais Théophane le Reclus ajoute ensuite que chacun fasse donc ce qui lui convient le mieux. Alors, l'Occident a connu l'Église latine, l'Église catholique, si vous voulez, a connu la Philokalie puis la prière de Jésus par de nombreuses traductions. Puis après la Première Guerre mondiale, en 1920, par les récits sincères d'un pèlerin russe, dont je vous ai parlé au début, récits d'un pèlerin russe à son père spirituel. C'est ça qui est publié aux éditions du Seuil, sous le titre « Récit au pluriel d'un pèlerin russe » dans la collection Sagesse. Les origines du livre restent mystérieuses. Le pèlerin a-t-il vraiment existé? Ben, il s'agit pas vraiment d'un roman pieux. Je pense pas qu'il serait destiné à donner du crédit à la fameuse Philokalie, à cette espèce d'anthologie des textes, là. Pas la manière de prier comme ça. C'est difficile de répondre à cette question, mais cependant, certaines descriptions sembleraient indiquer une expérience spirituelle vécue, un vrai pèlerin russe. De toute façon, la narration donne l'impression, oh, quand on lit ça, c'est beau, là, d'une fraîcheur, une grande fraîcheur, une fraîcheur naturelle, d'un sentiment vif. Hein. Puis ça possède une valeur littéraire évidente. Hein. Dans la Russie d'hier et même d'aujourd'hui, on peut rencontrer beaucoup de vagabonds mystiques qui appartiennent à toutes les couches sociales. On trouve donc des conteurs, oui, des conteurs, des pèlerins mendiants, qui trouvent dans leur itinérance là une façon de vivre qui correspond à leur goût, et parfois une source de revenus un petit peu, ça les aide à vivre. Une foule d'hommes, donc, reçoivent l'appel de la route pour accomplir une quête expiatoire, hein, comme Saint Joseph-Benoît Labre, dont je vous ai parlé deux fois. Ce Français qui a essayé d'entrer dans des monastères et qui est parti à travers l'Europe et qui est mort très pauvrement à Rome et qui a été canonisé, lui qui était un pouilleux couvert de vermine. Que l'Église est extraordinaire de canoniser même des hommes comme ça, qui sont un peu fous du Christ simplement, qui ont l'air des déséquilibrés mais qui ne le sont pas. Ce sont des gens qui s'adonnent à la prière. Ils veulent étancher leur soif de beauté aux besoins devant les spectacles du monde sur la route, là. Et ils veulent éveiller aussi les esprits qu'ils rencontrent, les gens qu'ils rencontrent, les âmes qu'ils rencontrent à la venue, parfois, de la fin du monde, disent-ils. Oh, mais c'est pas important. Mais ça frappe ça. Ça avait frappé aussi, au cours de ce siècle, un riche aristocrate russe qui s'est volontairement dépouillé de tout. Il est parti afin d'expier, après la révolution russe, là, pour ceux qui traitent Dieu de fou, disait-il. Alors, les historiens ont tenté d'apporter des raisons d'ordre sociologique ou géographique à toute cette espèce de grande procession permanente, là. On a dit que les habitants de la Russie, cet immense pays, subiraient l'attrait de la puissance de la terre. Un peu comme les Bretons subiraient l'attrait de la puissance de la mer. Hein. On pourrait y ajouter la rareté de l'esprit embourgeoisé, là, chez les Russes. Ils sont pas portés à ça. Les pèlerins, comme le pèlerin russe, sont détachés des biens de ce monde. Hein? Et ils refusent de s'y installer dans ce monde confortablement, puis de risquer d'y perdre leur âme. Non, non, ils veulent pas perdre leur âme. Ils ne cessent de garder leur distance d'une espèce de société qu'ils méprisent, qui est satisfaite d'elle-même. Puis ils évoluent en marge de ceux qui ont des maisons, des autos, qui sont nantis, de ceux qui mènent finalement une vie normale. Mais qui pourrait dire ce que c'est que la normalité? Qu'est-ce qui est normal, hein? Les déséquilibres psychiques, il y en a tellement aujourd'hui, on lit peut-être tous, moi le premier, voir les comportements névrotiques dont les causes ne sont en réalité très souvent d'ordre métaphysique, c'est-à-dire pourquoi vivre? Pourquoi vivre? À quoi ça sert? Mais ça se multiplie étrangement à notre époque. Oh, qu'il y en a, on en parle beaucoup au Québec avec les suicides, les tentatives de suicide, les désespoirs. Les gens qui sont tout étranges, j'en ai adopté un, je sais ce que c'est 23 ans de travail. C'est dur, c'est difficile, mais il faut le faire, il faut les aider, ces pauvres gens. Hein. Tant d'hommes ont cru un peu vite que l'on pouvait évacuer Dieu. Hein. Oh, faire fuir de sa présence et dire, comme on entend à la télévision, « Dieu n'existe pas, on n'en a pas besoin, pas besoin de Dieu, Dieu n'est pas nécessaire. » Dieu n'est pas nécessaire, Dieu est essentiel. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes faits pour l'aimer, pour répondre à son amour. Comment peut-on dire que Dieu n'est pas nécessaire? Mais c'est ça, il plonge dans le désespoir. Et pour un spirituel contemporain, cette quantité de maladies de l'âme ne serait pas due à simplement la répression des instincts, dans le sens où l'entend la psychologie, puis de l'instinct sexuel en particulier, là, comme le supposait, vous savez, Reich et Marcuse. Là. C'est la répression du seul instinct spirituel. C'est l'inhibition imposée à tout élan religieux. C'est ça qui est le drame contemporain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est toujours vrai aujourd'hui. Je me suis inspiré dans la première partie, n'est-ce pas, de Saint Jean Climaque, l'échelle sainte, publiée par l'abbaye de Bellefontaine, il y a déjà plusieurs années, de même que le bel ouvrage « Les grands mystiques russes », publié chez Nouvelle Cité à Paris. On trouve ça en librairie encore. Les grands mystiques russes. C'est un ouvrage considérable, ça a bien plus de 400 pages. C'est de ça n'a pas d'importance, l'auteur Thomas Spidlik, c'est trop compliqué. Demandez simplement les grands mystiques russes. Chez Nouvelle Cité, je vous ai cité aussi les récits d'un pèlerin russe, publiés aux éditions du Seuil, et la petite philokalie de la prière du cœur, parue aussi aux éditions du Seuil. C'est pour ceux qui veulent se procurer des beaux livres sur la question qui est traitée aujourd'hui. Cette prière, je vous la rappelle très simplement, tout le monde la connaît au fond, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. En s'écartant des sentiers battus, où tout le monde est plongé comme dans une espèce de conformisme même intellectuel et social, le pèlerin russe, ou n'importe quel pèlerin sérieux, se remet sur le droit chemin dans la quête de l'unique nécessaire. Il nous sert d'exemple, et nous sommes tous des pèlerins au fond de nous-mêmes. D'accord, nous sommes mariés, nous ne pouvons pas quitter notre femme, notre mari, pas quitter nos enfants, il n'en est pas question. Mais il faut se mettre sur la route, car le Christ l'a dit, « Je suis le chemin ». Il faut donc vivre avec lui, il est le chemin vers le cœur tout aimant, maternel, du Père, d'un cœur de mère. Et cette quête du royaume à laquelle nous invite le Christ Jésus permet de maintenir des distances à l'égard du monde. Le monde, comme je vous ai dit, c'est compris dans le sens où l'entend Saint Jean dans ses beaux textes, paru il y a 2000 ans. Je dis bien paru. Oui, ça a été copié tout de suite. C'était publié dans un sens. Que c'est beau, Saint Jean. Il y a là une résurgence d'une attitude chrétienne fondamentale qui remonte à la plus haute antiquité, comme le montre cette fameuse épître à Dionysiète. Ils, les chrétiens, dit-il, les chrétiens habitent leur propre patrie comme des voyageurs. Oui, nous sommes dans nos maisons comme des voyageurs, au travail comme des voyageurs. Nous sommes toujours des voyageurs. Il ajoute, l'auteur de l'épître à Dionysiète, ils vivent sur la terre, mais ils sont les citoyens du ciel. Parce que notre grande réalité à nous, si c'est vraiment la terre dans un sens, parce que nous prenons soin de nous, de notre prochain, si nous sommes de véritables chrétiens, nous vivons aussi avec les saints du ciel dont je vous entretiens souvent. Nous vivons avec les anges, mais surtout et particulièrement avec Dieu, Père, Fils et Esprit. Et le texte ajoute, ils sont mendiants et ils en enrichissent plusieurs. C'est vrai, hein? Nous mendions la présence de Dieu. C'est-à-dire, nous cherchons à être plus présents à la présence. Et ainsi, nous pouvons donner le Christ aux autres, nous le portons, comme la Vierge l'a porté et l'a donné au monde. Nous le portons pour le donner. L'impatience des fins dernières, où éclatait la bonne nouvelle dans sa joyeuse nouveauté, là. Ça s'est graduellement estompé, hein, au fil des siècles. Hein. Elle se fait bien rare de nos jours. Bon, aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Pourtant, nous sommes fiers de nos réalisations technologiques, nous sommes obsédés par un souci d'efficacité, c'est le règne de l'activisme. Mais lui, le vagabond mystique que nous devrions être nous-mêmes dans notre situation ordinaire, mais lui, ils sont des vrais vagabonds, ils se promènent. Bien, lui, il nous rappelle que la vocation du chrétien doit s'épanouir dans le monde, se réjouir de ses réussites, d'accord, sans toutefois s'asservir à ses lois, les lois abominables souvent du monde. L'appel du Seigneur, veillez et priez, devient, dans la bouche du pèlerin, hein, qui est en constant état de raison sur la route qui mène vers l'infini de l'horizon, là, c'est marcher et prier, non pas veiller et prier, mais marcher et prier. Et voici donc quelques-unes des étapes majeures de son cheminement, hein, du cheminement du pèlerin russe. Les milieux chrétiens d'Occident, nous autres ici en Occident, les latins, sommes déjà familiarisés avec les récits d'un pèlerin russe. C'était tellement populaire, je vous l'ai dit, en particulier à la télévision de Radio-Canada, grâce au réalisateur Roger Leclerc. Ça a connu aussi de nombreuses rééditions, ces livres. On sait que le héros, jeune encore, il a 30 ans, l'âge du Christ, a perdu femme, maison, emploi. Il entre un dimanche à l'église, comme je vous ai raconté, pour y entendre cette parole de saint Paul, « Priez sans cesse ». Ça pénètre jusqu'aux fibres les plus secrètes de son être. « Priez sans cesse ». C'est gravé dans son cœur. Il part sur les routes pour chercher l'homme capable de lui en expliquer le sens et de lui en enseigner l'usage. Et là, le sens de ce départ, alors, c'est clair. Et c'est d'abord prétexte à l'évocation d'une Russie, campagnarde, on se promène avec lui, là. Puis, au hasard, des rencontres, on échange des expériences de raison. C'est un beau texte. Ça fait aussi penser à la condition de l'homme ici-bas, hein, qui est assumé par le Christ, qui n'avait pas de lieu où reposer sa tête, hein, vous vous souvenez? Ça renvoie à Abraham aussi, hein, va, va. Mais enfin, surtout, ça rappelle le même Christ là, qui a dit de lui-même, « Je suis le chemin, je vous l'ai dit. » Prendre la route alors, n'est-ce pas déjà entrer en communion spirituelle avec celui qui nous attend quelque part, mais où, où? Où? Notre pèlerin finit par trouver un staretz qui lui transmet les premiers rudiments de la prière dite de Jésus, et le texte de Saint-Siméon. Les nouveaux théologiens dont je vous parlerai, je le répète, vendredi, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent que la deuxième moitié ou écoutent peut-être la première moitié, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont pris. Le nom de Jésus constitue le centre de rayonnement de cette prière. Ce nom devient porteur de la présence de celui qui est invoqué. Sa prière est aussi dite prière du cœur, parce qu'elle descend de l'intellect, dans notre ciboulot, là, qui endure imbuement d'être dépossédé de son activité, qui brette partout, là, jusque dans le cœur. Dans le cœur. Là, cette présence résonne dans les fibres profondes de ce qu'on appelle l'organe central, hein, le cœur. Pris dans son sens physique et spirituel, un hein, Dieu sensible au cœur, disait Pascal, hein. Et le staretz soumet le pèlerin russe à une rude ascèse, dont seules les grandes étapes nous sont signalées. C'est fondé sur la répétition sans relâche du nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une espèce d'automatisation là, choquante pour les non-initiés de cette espèce d'acte religieux par excellence qui est l'imploration du divin? On se moque de notre chapelet, on se moque de nos prières répétitives. Je vous parle aujourd'hui d'une grande prière répétitive. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Mais c'est pas une automatisation. Dans la mesure où, à travers la répétition et sous la conduite d'un maître éclairé, notre fidélité de croyant s'affirme envers le nom de Jésus. Vous vous souvenez de ce beau texte de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, « Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur terre et sous la terre. » Alors l'effort d'invocation du nom de Jésus suscite un renoncement à soi au profit du Seigneur Jésus. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, je vous le répète, c'est fondamental. » Et peu avant de mourir, dans le récit du pèlerin russe, là, le staretz lui confie un exemplaire de la philokalie, où la quête de Dieu est perçue comme l'amour de la beauté. Que c'est beau, hein? L'amour de la beauté. Dieu est toute beauté. C'est un recueil d'écrits, comme je vous ai dit, de grands spirituels, je vous le rappelle, sur la prière et la garde du cœur. Ça a été édité tout d'abord en 1782, ça. Par un moine du Mont Athos. Cet ouvrage fait preuve, je vous assure, d'une connaissance raffinée du cœur humain. C'est extraordinaire. Et aussi d'un savoir approfondi des processus psychiques, comme le dit si bien Michel Evdokimov. L'auteur joue auprès du pèlerin, lancé maintenant seul sur les routes, le rôle de véritables guides spirituels indispensables. Mais c'est indispensable à l'exploration des abîmes de son être intérieur. Faut faire attention dans la vie spirituelle. Tantôt, le pèlerin lit cette philokalie de livres dont je vous ai parlé, qui est édité aux éditions du Seuil, pour affirmer et stimuler son âme dans sa lutte avec les ennemis invisibles, car ils sont là, moi j'y crois. Le Christ en parle assez souvent dans les évangiles, comment ne pas y croire? Tantôt, il s'en sert pour vérifier les sensations de son corps. Et sans ce contrôle, dit-il, j'aurais craint de tomber dans l'illusion de prendre les actions de la nature pour celles de la grâce. C'est ce qu'il dit. Mais ce type de pèlerinage, là, qui est scandé par cette formule répétitive de supplication qui se renouvelle sans cesse, n'est pas sans danger, semble dire le pèlerin. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable d'avoir un guide, un initiateur, pour pas tomber dans les excès. Le départ sur la route amorce donc la croissance spirituelle d'un homme nouveau et la vie itinérante se déroule lentement, lentement, lentement. Ça permet aux pèlerins de mettre en pratique l'incitation de Saint Paul, de l'apôtre Saint Paul, à prier sans cesse. C'est ça qui l'a saisi, il veut savoir comment. Et c'est, il en arrive à édifier les gens autour de lui, à travers le regard quelque peu naïf de cet homme simple qu'est le pèlerin russe. Mais défile donc devant nos yeux, dans le texte, des paysages fascinants de la Russie, ainsi qu'une galerie de portraits souvent surprenants, d'hommes et de femmes, dont le rapport avec Dieu, ou son absence, est presque toujours évoqué, il en parle. Très intéressant à lire. Hein? Il y a des gens qui prétendent que ces récits baignent dans une espèce d'intemporalité, parce qu'ils ne parlent pas de ce qui arrive aux alentours de 1860 en Russie. C'est la veille de la libération du servage, les groupes nihilistes, là, les penseurs russes athées, là, qui se radicalisent. Bientôt va s'ouvrir aussi les attentats, la révolution industrielle, le cortège des misères qui va couvrir la Russie. Pauvre Russie qui est toujours, on dirait, replongée dans toutes sortes de misères. Et de tous ces événements, le pèlerin russe n'en parle à peu près pas, c'est à peine. Or, l'histoire de l'humanité se limite pas à toutes ces forces politiques, quand on y pense. On ne parle dans l'histoire que des révolutions sociales, l'élévation ou la chute des grands de ce monde, tel empereur, tel roi, tel personnage qui avait marié deux femmes, etc. Toutes sortes de choses qui sont ennuyantes, à mon avis, comme la pluie. C'est une histoire pleine de bruit, de fureur, comme dit Shakespeare, dont je vous parlerai bientôt. Racontée par, on dirait, un idiot. Ça signifie rien, l'histoire, finalement, quand on regarde ça, la façon dont c'est raconté, souvent. Pas toujours, il y a des bons historiens. Parce que l'histoire des manuels scolaires, c'est sous-tendu par une autre histoire dont on ne parle pas, qui est inspirée par l'Esprit-Saint, qui parvient à maturation dans le secret des cœurs. C'est ici qu'on vous en parle à Radio Ville-Marie. J'essaie de faire ça à Rencontre spirituelle. Hein. Quand Saint Paul évoque l'éclosion de la nativité, il écrit « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son fils né d'une femme. » Ça, c'est le creux de l'histoire. Nous allons fêter le 2000e anniversaire de cette nativité. Qui va y penser? On va se saouler la gueule, on va s'envoyer en l'air, on va faire les fous. C'est 2000 ans. Mais 2000 ans, à quoi ça rime, si ce n'est l'anniversaire de Jésus, 2000 ans. Nous devrions tous tomber à genoux et l'adorer au coup des 12 coups de minuit. Mon Dieu. Il n'appartient pas aux hommes d'apprécier le moment d'accomplissement de cette plénitude. Mais ça nous incombe, à tout le moins, de la préparer. C'est Bernanos qui avançait que les journalistes, il y a 2000 ans, ont été incapables de répercuter la seule bonne nouvelle, la grande nouvelle capable de révolutionner l'histoire des hommes et qu'on va célébrer, sans trop le savoir, dans quelques mois. Cette histoire est éclairée par la Providence, par le cœur de Dieu. Elle est vécue liturgiquement dans l'Église. Nous, nous allons célébrer dans l'Église le 2000e anniversaire de ce grand jour. Elle a une saveur d'éternité qu'ignore l'histoire profane. L'histoire profane est accrochée à l'éphémère, aux platitudes. D'accord, l'Église ne se désintéresse nullement de cette histoire profane, c'est sûr, on le voit bien. Le pape a des émissaires, des diplomates dans tous les pays du monde, il s'intéresse à l'histoire, il en parle. Mais il parle aussi de l'union à Dieu. Car l'histoire profane a pour vocation d'intercéder, de nous faire intercéder. en faveur des hommes qui vivent cette histoire. Puis, l'histoire de l'Église a son propre destin en partie lié avec cette histoire profane. Et nous pouvons bien prier et dire, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous tous dans l'Église, que nous sommes des pécheurs. Aie pitié de toute cette humanité qui vit cette histoire profane sans trop se rendre compte du sens qu'elle a. C'est par la prière que le pèlerin russe, dans son récit, paru aux éditions du Seuil, accède à l'histoire du plan de Dieu. Ce plan de Dieu, le plan de Dieu qui illumine tout homme vivant dans le monde. Un jour, imaginez des brigands le battent cruellement. Ils sont arrêtés. Alors il leur promet un rouble, une pièce de monnaie, de l'argent russe, quoi, un rouble. S'ils lui révèlent où ils ont caché sa chère Philokalie, ton livre, quand il récupère son bien, il se rappelle que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Alors, il fait un détour pour leur remettre l'argent et leur dit doucement, « Priez, faites pénitence. Jésus-Christ est l'ami des hommes, il ne vous abandonnera pas. » La prière ne le coupe donc pas de la communauté des hommes, même des brigands, bien au contraire. Elle renforce le lien avec tous les pécheurs, y compris les voleurs. La relation à l'histoire dans les récits du pèlerin russe se situe alors au plan, on peut dire, de la maturation de l'esprit dans le cœur des hommes. Cette maturation qui est seule capable de faire advenir quoi? La plénitude des temps. Qu'est-ce que c'est ça? C'est hâter l'avènement du jour de Dieu. C'est hâter sa présence dans le cœur de tous les hommes, qui est le but ultime. C'est le terme de l'histoire, ça. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des hommes, si ce n'est l'histoire de l'aboutissement finalement du règne de Dieu, la présence de Dieu dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes et des enfants et de tout le monde. Tous les chrétiens, nous sommes invités à œuvrer de tout notre être. C'est ce que Saint-Pierre, le premier pape, nous dit dans sa deuxième épître au chapitre 3. Partir sur les routes, voilà donc une façon autre de s'enfoncer dans l'histoire des hommes. Le lecteur des récits du pèlerin russe est donc invité à tenir compagnie au pèlerin sur ses voies terrestres, comme sur les voies de son évolution intérieure. Et l'appel de la route répond à un appel du Seigneur. On conçoit dès lors que la grâce puisse lui être donnée, chose très rare dans la littérature mystique, d'être ravi en extase, sans cesser d'être en mouvement, parce qu'habituellement, le phénomène d'extase, c'est un corps qui est en totale immobilité, l'être ne bouge plus, l'esprit pouvant être ravi au troisième ciel, comme le dit saint Paul. Mais dans le cas du pèlerin, l'esprit, sans que le corps cesse de se mouvoir et de marcher, quoi, peut être ravi dans la contemplation des êtres et des choses. Il écrit, « Voilà comment je vais maintenant, disant sans cesse la prière de Jésus. » La prière de Jésus. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Prière qui m'est plus chère et plus douce, dit le pèlerin, que tout au monde. Parfois, je fais plus de 70 versets en un, de 70 verstes en un jour. Et je ne sens pas que je vais. Je sens seulement que je dis la prière. Quand un froid violent me saisit, je récite la prière avec plus d'attention et bientôt je suis tout réchauffé. Si la faim devient trop forte, j'invoque plus souvent le nom de Jésus-Christ et je ne me rappelle plus avoir eu faim. Si je me sens malade et que mon dos ou mes jambes me fassent mal, je me concentre dans la prière et je ne sens plus la douleur. Lorsque quelqu'un m'offense, je ne pense qu'à la bienfaisante prière de Jésus. Aussitôt, colère ou peine disparaissent et j'oublie tout. Mon esprit est devenu tout simple. Je n'ai souci de rien. Rien ne m'occupe. Rien de ce qui est extérieur ne me retient. Dieu sait ce qui se fait en moi. C'est un texte remarquable. Faudrait le relire. Faudrait y consacrer presque toute une émission. N'oublions pas, saint Paul nous a dit prier sans cesse. Alors, ce bon pèlerin russe. Arrive le jour où il doit abandonner une cabane où il s'était reposé pendant un bon bout de temps pour se guérir aussi, puis ayant remercié, dit-il, le garde forestier qui l'a reçu, il récitait une prière, je baisais ce coin de terre, où le Seigneur avait bien voulu me manifester sa bonté. J'aime bien ça, je baisais ce coin de terre, c'est comme le pape qui renoue avec ce geste symbolique de baiser la terre. On se demande pourquoi. Ça a toutes sortes de significations, ça. S'incliner devant la terre nourricière d'un peuple que l'on se propose de rencontrer, là, c'est le reconnaître dans sa dimension de communauté charnelle. C'est embrasser la terre du pays. Plus extensivement encore, on peut dire que baiser une terre commune à tous les hommes, c'est être capable de les admettre tous comme frères, de partager un destin où tous peuvent se reconnaître. Alors, le pèlerin russe continue comme ça son voyage. Et c'est un voyage magnifique à lire. Dans ce livre, les récits du pèlerin russe. Je peux vous faire une petite confidence. Moi, au lieu de réciter cette prière, toute ma vie, j'ai récité des... Bon, peut-être, je ne sais pas, 50 000 fois. En marchant, dans le métro, en allant en pèlerinage en Europe. Cette prière que vous connaissez sans doute. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Ce sont les jésuites qui m'ont appris ça au collège Brébeuf dans les années 30-40. Ça m'est resté toujours gravé toute ma vie. Alors je la récite au besoin en marchant. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez. Et je marche comme ça. C'est un peu enfantin, m'excuse. Mais ça me met en présence de Dieu. Je vous ai dit ça comme ça tout bonnement.